Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
Bonjour à tous, c'est Human, oui, une nouvelle fois, comme chaque semaine, avec aujourd'hui un thème sur le Bénin, sur le pays du Bénin en Afrique, avec autour d'une bibliothèque que nos invités d'aujourd'hui, sont en train d'installer dans un village béninois. Autour de la table, Jérémy Nyonlonfoun, bonjour.
Bonjour.
Jérémy, vous êtes né où ?
Je suis né au Bénin.
Au Bénin.
À Cotonou, plus exactement.
Cotonou,
la capitale.
La capitale, oui. Mais il y a longtemps ?
Oula, vous croyez que c'est... C'est indiscret de poser cette question. Oui, en 1961, je suis né au Bénin, donc il y a 58 ans, bientôt 59.
Et vous y avez vécu longtemps ou
très longtemps, un mois.
Voilà. Et très vite, avec vos parents, venu en Europe, en France ?
En France, oui.
D'accord.
Donc je suis né au Bénin.
Oui.
J'y suis resté un mois. Et maman est venue rejoindre papa, qui était militaire de carrière. Donc, c'était en juillet 61, je crois.
Il était dans l'armée française ?
Oui.
Bien sûr.
Voilà.
Le Bénin s'appelait comment à l'époque ?
Le Dahomey.
Voilà. Et lui, il était soldat ?
Il était soldat, voilà.
Voilà. Et dans la vie, vous faites quoi ?
Alors, Jérémy ? Moi, je suis agent immobilier.
Oui.
Voilà.
Et par ailleurs, chanteur, on peut le dire.
On va dire,
à titre
personnel. Dans mon activité extra-professionnelle, oui, j'aime bien la musique, j'aime chanter. Et puis, j'essaye de lier cette passion à des œuvres caritatives qui peuvent aider les enfants et, on va dire, l'avenir de notre société, de notre humanité. Essayer d'apporter une pierre un petit peu à l'édifice pour rendre cette société meilleure.
Voilà, nous allons y revenir, bien entendu, tout au long de cette émission. Mais j'accueille également votre frère aîné. Pardon, monsieur le frère aîné, Jean-Claude Nyonlonfoun, d'avoir commencé par le cadet. En principe, on fait plutôt la référence aux ancêtres, n'est-ce pas, dans la tradition africaine. Et là, vous voyez, on a commencé par le plus jeune. Alors vous êtes, pas le pater familias, mais aujourd'hui, oui, vous êtes le plus ancien de la famille.
Aujourd'hui, oui, je ne suis pas physiquement le plus ancien.
Oui.
Nous avons un frère plus vieux que nous.
Oui.
Et une sœur également.
Oui.
Mais si vous faites référence à l'Afrique, au Bénin, dans la famille en Afrique, je suis considéré comme le doyen. Parce que je suis celui qui a gardé les rapports les plus proches avec la famille en zone rurale là-bas. Voilà.
Et quand vous parlez de votre famille, vous faites référence à un village précis au Bénin que peut-être il faut nommer.
Alors, quand je parle de ma famille, je parle d'un concept beaucoup plus large. Mais le village qu'on va nommer, c'est le village de Kodji, qui est le village de naissance de notre père.
D'accord.
Voilà. Parce que notre mère est née dans un autre village, dans une autre partie du Bénin, qui est aussi une partie de notre famille.
Le Bénin, disons-le pour nos auditeurs, n'est pas un immense pays. Ça n'est pas le Nigeria, ça n'est pas le Cameroun. C'est un pays, si on devait le décrire aujourd'hui, pour les auditeurs rapidement, en superficie, en population, qu'on décrirait de quelle manière ?
Alors, c'est un pays qui, géographiquement, représente un tout petit peu moins du quart de la France.
Voilà.
Qui a une
population... Donc petit par rapport à l'Afrique ?
Qui est petit par rapport à l'Afrique globalement, puisque l'Afrique, c'est enfin, c'est un continent qui est énorme. C'est un pays dont la population oscille aux alentours de 6 millions d'habitants. La détermination du nombre exact est un peu compliquée, mais c'est aux alentours de 6 millions d'habitants. Et c'est un pays où plus de la moitié de la population est agrégée dans la zone sud. Parce que, historiquement, c'est la zone la plus habitable, etc. Voilà.
Voilà. Et vous-même, vous êtes né également à Cotonou, ou bien dans le village Kodji?
Alors, je suis né à Cotonou également. Oui. Oui.
D'accord.
Je suis un tout petit peu plus vieux que mon frère.
Oui.
Et j'ai vécu un laps de temps un peu plus long que lui au Bénin, mais c'est une petite enfance. C'est une toute petite enfance.
Jusqu'à donc quoi, 4-5 ans?
Jusqu'à 5 ans. Oui.
D'accord. Mmh. Vous avez encore des souvenirs de l'époque?
Je peux dire oui, mais ça serait mentir. On se construit des souvenirs.
Oui.
Sur ces périodes-là, on se construit facilement des souvenirs. Après, de savoir s'ils sont vrais ou faux, c'est autre chose. Mais on les prend comme vrais. Objectivement, je dirais que... je dirais non. Je n'ai pas de vrais souvenirs dont que je puisse attester, parce que je suis quand même juriste. Et je ne peux pas dire...
Voilà, vous êtes juriste de formation.
Oui.
Et votre activité aujourd'hui en France
Aujourd'hui, je dirige une société de R&D. Une petite société.
Recherche et développement.
Voilà. Oui.
Oui. D'accord.
Voilà. En chimie. Donc,
en chimie. Et vous avez une formation au départ qui est une formation de juriste. Ça n'est pas tout à fait indifférent par rapport à notre sujet, parce que le droit, quelque part, à travers la codification des traditions et des règles de vie humaine, de vie en société, n'est pas indifférente aussi bien dans nos histoires, à tous, que dans les pièces d'art premier, d'art africain, qui sont le bonheur et l'intérêt de notre troisième invité. J'ai nommé Yves Creix. Bonjour.
Bonjour.
Voilà donc Yves, vous êtes un amateur d'art premier, d'une part, et d'autre part, vous êtes né également en Afrique, je me trompe?
Alors, petite rectification.
Oui.
Je ne suis pas né.
Ah, pardon.
J'ai été conçu.
Ah.
J'ai été conçu.
Vous voyez qu'il y en a qui gardent de la mémoire. Hein. Même la conception, il s'en rappelle, lui. Hein.
Mais pour des raisons sanitaires, ma mère est venue accoucher en France.
D'accord.
Et 3 mois après,
d'accord,
je retournais donc en Oubangui-Chari, qui était là où travaillait mon père. Il était ingénieur agronome dans la culture du coton, dans un petit village qui s'appelle Bossangwa. C'était à la fin des années 40, début des années 50. Et j'y ai passé mes toutes premières années, 7-8 ans à peu près, dans cette région qui aujourd'hui est la République centrafricaine.
Voilà.
Dans le nord-ouest de la République centrafricaine, proche de la frontière du Tchad.
D'accord.
Bassin de Louam, pour être très précis.
Très bien. Et donc, votre père, qui était donc, vous l'avez dit, un professionnel du coton,
oui.
Lui a eu également une fonction... je crois, dans, on va dire, l'activité administrative coloniale de la France.
Oui.
Je me trompe?
Non, 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 tout à fait, parce qu'il a eu la bonne idée d'apprendre la langue véhiculaire du coin, oui. Le sango, qui a permis qu'il ait ouvert toutes les portes pour, je dirais, toutes sortes de missions qui lui étaient confiées par l'administration coloniale de l'époque.
D'accord. Donc, il avait un titre de quoi? Il était responsable d'une...
Il n'était pas responsable.
Non.
C'était une architecture qui était extrêmement légère. Hein.
Oui.
Lui, il est ingénieur agronome. Il s'occupait de la culture des cotons. Mais pour autant, on l'appelait sur des missions très ponctuelles. Pas essentiellement, d'ailleurs, sur l'Oubangui-Chari, puisqu'il a transité par le Gabon, par également le nord du Congo... Donc, ça lui a permis de visiter un petit peu toute une partie de cette Afrique, du nord de l'Afrique centrale.
D'accord.
Pour être plus précis, quoi.
Voilà. Et donc, je le disais, vous avez un intérêt à la fois familial, de tradition, par votre père, et personnel, sur les arts premiers, sur les masques africains en particulier. Et on en reparlera, puisque vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Les maîtres des codes ». Et nous voilà revenus à la codification. Alors, ce qui vous réunit, messieurs, vous trois, et merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est l'amitié, nous allons en parler. Mais c'est aussi un projet en direction du Bénin, et c'est un projet de bibliothèque au Bénin, c'est le titre de notre émission. Et je regarde Jérémy Nyonlonfoun pour qu'il nous explique ce qu'est ce projet de bibliothèque au Bénin.
Alors, je vais faire une petite genèse, hein, si je peux me permettre. J'ai commencé à chanter en 2002. Voilà, enfin, me produire sur scène. Hein. J'ai pas commencé à chanter personnellement. Je crois que personnellement, j'ai dû commencer, j'avais 7 ans dans la salle de bain, bercé par mon frère aîné James et ma maman, qui m'avait un petit peu initié auditivement à l'écoute d'Aznavour. Et un jour, en 2002, j'ai une amie qui, comme ça, au cours d'une soirée, dit « Moi, Jérémy, il est tout le temps en train de chanter, j'aimerais bien un jour le voir sur scène. » Et j'ai pris ça un petit peu comme un défi. Une folie. Et puis j'ai voulu monter ça. Et j'ai demandé, j'écrivais des textes. Et
Mais alors je vais très vite. Quel est le rapport entre votre goût pour la chanson et votre activité amateur de chanteur et le projet
J'allais
dont je voudrais que nous parlions maintenant?
On est peut-être pressé par le temps.
Quel est le rapport?
Alors, tout simplement, c'est que quand j'ai fait ce premier récital, où voilà, on a rempli la salle, 500 personnes, il restait un budget assez important, et j'ai dit, ben moi, cet argent, j'en ai pas forcément besoin, Dieu merci. Est-ce que je pourrais pas le mettre au service d'associations qui s'occupent d'enfants? Voilà comment ça a commencé. J'ai fait mon premier récital, j'ai été briefé par Charles Aznavour, qui m'avait donné quelques conseils, et ça m'a un peu permis, ben voilà, de prendre ce chemin et de m'occuper d'associations, chaque fois d'en désigner une. De désigner une association qui s'occupe d'enfants, parce que pour moi l'enfant c'est l'innocent, il a rien demandé, il y vient au monde, on est là pour l'aimer, l'élever du mieux possible et le guider sur un bon chemin. Voilà, donc j'essaye de ma petite personne d'apporter un réconfort. Donc j'ai fait beaucoup pour des associations locales, lyonnaises. J'ai fait pour l'hôpital de Brousse, hein, pour les enfants atteints du cancer. J'ai fait pour le pavillon S à Édouard Herriot, les enfants transplantés. J'ai fait pour Hôpital Assistance. J'ai fait aussi, pour ne pas les laisser sur le bord du chemin, les adolescents. Parce que les adolescents, des fois, il y a des crises de famille où ces enfants sont laissés pour compte. Et il y a des centres, dont un qui se trouve à Saint-Genis-Laval, qui s'occupent de ces enfants qui sont rejetés par leur famille pour plein de choses. Donc, je suis allé voir ces associations. De quoi avez-vous besoin? Je fais le récital, on récolte l'argent, on achète ce dont ils ont besoin et on le fait. Voilà.
Voilà. Et donc, on en arrive ainsi, chemin faisant, à l'association que vous avez constituée entre vous et quelques autres, bien entendu, voilà, qui a ce projet de bibliothèque au Bénin.
Voilà. C'est une association.
Est-ce qu'on en parle tout de suite ou est-ce qu'on écoute Charles Aznavour, puisque vous étiez avec Charles Aznavour? Parce que Charles Aznavour, il nous propose « Emmenez-moi, écoutez ».
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirage, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais débarbouiller ce gris en virant de bord. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafiot craquant de la coque au pont, pour partir je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant, m'a-t-on dit, de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, 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 la.
Jean-Claude Montagnon, Montagnon, qu'est-ce que je raconte ? Nyon Lonfoun, j'étais sur un autre chanteur, je crois.
Bah oui, je crois.
emmenez-nous au Bénin, emmenez-nous dans votre aventure, dans votre association. Expliquez-nous comment elle s'est constituée et son but.
Alors, l'association s'est constituée il y a une dizaine d'années.
Alors disons qu'elle s'appelle NOSE, N-O-S-E.
Oui.
Comme le nez.
Comme le nez en anglais.
Oui.
C'est l'acronyme de Nord-Ouest-Sud-Est.
Oui.
C'est la liaison entre l'Europe,
oui.
L'Europe de l'Ouest et l'Afrique.
Voilà.
Donc cette association... s'est constitué il y a une dizaine d'années pour donner un cadre juridique, une forme, une raison à des activités qu'on avait auparavant, qui consistaient à recueillir des livres pour les amener à des enfants qui n'en disposaient pas. Nous avions identifié le problème dans différents endroits du Bénin ou d'Afrique, même sur d'autres continents. Mais étant donné la relation que nous avons avec l'Afrique et principalement le Bénin, nous avions décidé de se concentrer sur cette zone géographique pour des raisons purement pratiques. Et là, le problème que nous avions identifié, c'est que dans les pays, dans les populations qui n'ont pas la tradition de l'écriture comme en Europe, l'utilisation du livre est compliquée. Le livre, qui devrait être un outil, devient un problème conceptuel. On ne prend pas le livre tel quel. Ici, le livre d'outil est devenu un loisir, une fin en soi. On lit par plaisir, on lit par divertissement.
Parce que tout le monde sait lire et écrire.
Parce que le livre est rentré dans l'élément culturel. En Afrique, la tradition étant orale, le livre n'est qu'un élément apporté depuis 100, 150 ans. Et l'approche...
Est amené, pardon de dire ce gros mot, par le colonisateur.
Oui, alors, ça n'est pas un gros mot, ça n'est qu'un fait historique. Et le fait qu'il ait été amené par le colonisateur, je vais dire, est une des choses que le rapport entre le colonisateur et le colonisé a fait. Il y a des tas d'autres choses hein, qui ont été faites. Mais le livre en tant que tel n'a pas été abordé dans son utilisation par l'enfant. Il a été abordé comme un élément de discrimination culturelle. Le peuple qui n'a pas le livre se sent frustré par rapport à celui qui l'a, le livre. Donc on a un recul par rapport à l'utilisation du livre, un recul instinctif. C'est le lettré, l'intelligent, celui qui est européanisé, qui va se donner un rapport au livre, le villageois, l'illettré, lui, va avoir une prévention contre le livre. Et nous avons imaginé de dédramatiser cette relation au livre en en faisant un outil simple.
Donc, par quel moyen, cette dédramatisation ?
Alors, on a éliminé tout ce qui est livre divertissement pour se concentrer sur le livre utilitaire. Le livre scolaire.
Le livre scolaire, oui.
Voilà, le livre scolaire et le livre parascolaire. Oui. L'enfant qui va à l'école a besoin d'apprendre et a besoin de s'exercer. Sur le livre scolaire tel qu'il existe, il ne peut qu'apprendre. Et pour les moins doués, entre guillemets, apprendre met une difficulté, c'est que ça ne donne pas le moyen de s'exercer. Le livre parascolaire donne le moyen de s'exercer par des exercices et des explications des exercices avec les corrigés.
Un exemple de livre parascolaire
mathématiques.
Oui, des exercices, quoi.
Oui, des livres d'exercices mathématiques.
D'accord.
Voilà. Lorsqu'on a un exercice à faire et qu'on n'a pas le corrigé et qu'on bute sur l'exercice, eh bien on dit « je suis nul en maths ».
Ouais.
Si on a l'exercice et son corrigé, on est déjà un peu moins nul parce qu'on a compris le corrigé,
bien sûr.
Plus ou moins. Voilà.
Bien sûr.
Donc en fournissant les deux, on s'est dit qu'on aiderait les enfants à le faire. Et on a commencé, il y a une douzaine d'années, à amener dans certains endroits de villages des ouvrages. Et on s'est rendu compte du succès de cela. On a participé avec des organisations comme Planète Urgence à des montages de bibliothèques dans le nord du Bénin, au Togo, des ouvrages qui nous étaient fournis principalement par la FNAC et certains éditeurs. Voilà.
Qui en faisait la FNAC une sorte d'élément de promotion et de communication interne et externe ?
Alors, la FNAC n'en a jamais fait un élément de promotion et de communication. La FNAC, et ça je veux leur rendre hommage pour ça, l'a fait spontanément.
D'accord. Hein ?
La FNAC avait des ouvrages qui lui étaient donnés par les éditeurs.
Plutôt que de les mettre au pilon, comme on dit.
Exactement.
C'est-à-dire de les détruire.
Plutôt que de les détruire,
oui.
Elle a préféré nous les mettre à notre disposition sur la base du projet qu'on lui avait présenté.
D'accord.
Mais elle n'a jamais demandé à ce qu'on mette son nom en exergue, etc. C'est nous qui le faisons parce que nous reconnaissons la qualité de leur action. Bon, cette action a été faite aussi parce que mon épouse travaille à la FNAC. Depuis longtemps. C'est le biais par lequel on avait ces livres à disposition. Et
bien
ce
sûr.
N'était que des ouvrages neufs. Ça, c'est très important.
C'est très important, cet aspect.
Oui.
Ne pas recevoir, quand on est africain, quand on est dans un petit village, quand on est au village Kodji, ne pas recevoir un livre qui a déjà été utilisé par d'autres.
Alors, ça n'est pas dans ce sens que c'est important.
Pardon ?
C'est dans le sens inverse, c'est-à-dire en amont,
oui.
Recevoir un ouvrage neuf, scolaire ou parascolaire, c'est d'avoir l'ouvrage de la dernière actualité, c'est-à-dire qui est le vecteur de la dernière, du dernier niveau de connaissance.
D'accord.
Quand on reçoit un ouvrage d'occasion, plus il est vieux, moins la connaissance est actualisée. Et c'est ça qui est intéressant.
Je comprends.
La deuxième chose qu'il y a, c'est que l'utilisateur peut avoir un renouvellement constant des connaissances. Alors que le livre d'occasion, l'ancien, la connaissance est pratiquement figée à un moment qui est déjà passé. voyez, c'est là où c'était important.
Et en même temps, j'imagine que vous avez été amené à beaucoup réfléchir les uns et les autres sur la notion même de bibliothèque. Et j'imagine que cette notion de bibliothèque, justement à l'ère contemporaine, va au-delà du livre lui-même et qu'elle englobe d'une certaine manière l'informatique, Internet, etc. Est-ce que je me trompe ?
Non seulement vous ne vous trompez pas, mais vous soulevez un point important. C'est que notre intervention se fait dans des zones rurales. Dans les zones rurales, le livre est un élément d'acquisition des connaissances et d'amélioration du travail scolaire des enfants, mais les autres éléments tels que l'informatique sont un élément qui devrait participer à cela. Or, c'est devenu un élément discriminant pour ces enfants parce que non seulement le vecteur de ces connaissances coûte cher, l'ordinateur coûte cher, et ça, on a pu en avoir également par la FNAC, par d'autres organismes, des ordinateurs, mais l'ordinateur met en exergue une lacune du système qui est la disponibilité du courant électrique et du réseau Internet dans les zones rurales.
À Kodji, il y a l'électricité ?
Il n'y a ni électricité, ni Internet.
Voilà. Donc, avoir un ordinateur à Kodji, ça sert à quoi ? Il faut un groupe électrogène ?
Il faudrait un groupe électrogène.
Oui.
Mais aujourd'hui, notre projet de bibliothèque porte sur le livre.
Oui.
Sur le livre scolaire et parascolaire.
D'accord.
Voilà. Et il porte également sur l'électrification à travers des panneaux solaires de ces bibliothèques, parce que l'électricité, dans un premier temps, va servir à élargir la plage d'utilisation des ouvrages. Kodji, le Bénin, est en zone très proche des tropiques.
Oui.
La plage horaire pendant laquelle la lumière est disponible, pour parler très trivialement, c'est de 7h du matin à 19h le soir. La plage horaire pendant laquelle les enfants ne sont pas chez eux pour utiliser ou pour aller à la bibliothèque, c'est de 8h du matin à 17h le soir. Avant 8h du matin, ils se préparent à aller à l'école.
Oui.
Ils ont une heure de marche pour aller à l'école, donc ils partent la nuit.
Ah oui.
Et quand ils rentrent, ils ont une heure de marche pour rentrer.
Oui.
Et ensuite, ils s'occupent des tâches de la maison. Donc, s'ils n'ont pas de lumière, ils ne peuvent pas accéder au livre.
Lire.
Oui. Voilà. Oui. Donc, un des éléments qui nous avait fait reculer toujours l'installation d'ouvrages dans des villages tels que Kodji, c'était cette non-disponibilité de la lumière électrique. Et le fait d'avoir un concert comme celui que Jérémy veut faire,
oui,
de récolter de l'argent,
oui,
va nous permettre d'équiper ces zones-là en photovoltaïque pour, voilà, que les enfants puissent lire avant et lire après.
C'est-à-dire que ça ne va pas être un groupe électrogène, mais... un groupe électrogène, mais alimenté par du photovoltaïque, c'est-à-dire par la lumière solaire.
Voilà. Alors, le groupe électrogène a un inconvénient, c'est le bruit.
Oui, bien sûr.
Et la pollution que génère l'utilisation de l'essence.
Oui.
Le photovoltaïque a un avantage majeur, c'est qu'il ne fait pas de bruit.
Bien sûr.
Qui ne génère pas de pollution autre que les poteaux avec les panneaux qu'il y a au-dessus. Hein? Donc, on a préféré attendre qu'il y ait des systèmes photovoltaïques un peu plus abordables en termes économiques pour lancer quelque chose comme ça, plutôt que d'acquérir des groupes. Dans le nord du Bénin, on a équipé un village en groupe électrogène et on s'est rendu compte des inconvénients que cela générait.
Ici comme ailleurs, et c'est une question que je pose à l'homme de recherche, j'imagine que, il est possible de sauter une étape. En Europe, on a l'habitude dans nos têtes, de considérer que les étapes historiques, en quelque sorte, de l'utilisation des technologies, elles suivent un certain ordre historique. Il me semble qu'en Afrique, parfois, enfin, dans des pays en voie de développement, on peut shunter, en quelque sorte, ce mouvement historique, qui a été le mouvement historique européen, par exemple, passer directement au photovoltaïque sans transiter par l'essence et le moteur explosion.
Oui, on peut le chanter. On peut le chanter d'autant plus facilement que c'est un élément qui est inhérent à l'être humain, et qui n'est pas propre à l'Afrique ou à quoi que ce soit. L'Europe n'a pas, dans toutes les zones, la même histoire. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2000 ans, la population la plus avancée en Europe de l'Ouest était la population romaine, qui a amené, en France par exemple, l'écriture, des formes de construction, etc., et qui a permis de faire un saut important d'acquisition de connaissances aux Gaulois.
Bien sûr.
Le rapport entre, pour reprendre le terme que vous utilisiez tout à l'heure, de colonisation, qui est mal utilisé actuellement en ce qui concerne l'Afrique, le rapport de colonisation qui s'est passé en 52 avant Jésus-Christ, lorsque les Romains sont arrivés en Gaule, alors qu'ils étaient là depuis bien plus longtemps, et le même, en fait, que ce qui s'est passé en Afrique en 1890, quand les Français ont débarqué. Les Romains avaient apporté des connaissances, ils ont apporté des inconvénients, mais en Afrique, les Européens, les Français, les Anglais, les Allemands ont apporté des connaissances, ils ont apporté des inconvénients, et ceux qui étaient sur place ont acquis ces connaissances immédiatement, sans passer par les étapes intermédiaires.
Voilà, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire des colonisations successives, en quelque sorte. Alors, revenons à notre village Kodji, au Bénin. Nous avons demandé à une écrivaine qui s'appelle Marion Curtillet de nous faire une chronique. Et nous débutons aujourd'hui avec une chronique. Elle a inventé un personnage. Je crois que ce personnage s'appelle Juliette. Et voilà, elle le fait comme si quelqu'un frappait à sa porte et venait nous parler. De quoi ? Vous allez voir. Je crois qu'il va s'agir du Bénin. Écoutez.
On frappe à ma porte par Marion Curtillet.
Je m'appelle Juliette. J'ai 27 ans et un master en communication. À Bordeaux-Montaigne, j'ai étudié. Depuis 5 ans, je travaille chez Facebook à Paris en tant que chef de projet ICRM. Vous expliquez en quoi ça consiste ? Non, vous ne pouvez pas comprendre. Par contre, je peux vous dire que c'est un métier qui paye bien, que mes collègues sont sympas, que les locaux sont top et que le comité d'entreprise est comme une deuxième famille pour nous tous. Seulement, un beau matin, sans prévenir, je me suis réveillée avec ma vie qui pesait 3 tonnes. J'ai cherché pourquoi, le besoin de sens, oui bien sûr, c'est écrit partout. J'en ai parlé autour de moi, les avis convergeaient, ça devait être ça. Mon compagnon m'a glissé qu'on devrait faire un enfant. Non mais et puis quoi encore ? J'ai 27 ans, pas 37. Ma mère m'a donné un contact à l'antenne parisienne des petits frères des pauvres. Ma meilleure amie voulait que je vienne à une soirée organisée par Vifil SOS Femmes. Et un voisin retraité qui passe ses lundis après-midi à jouer de la guitare dans les services d'oncologie des hôpitaux franciliens m'aurait bien vu faire pareil avec ma flûte traversière. Oui, mais non. Il me fallait autre chose. De l'aventure. De l'exceptionnel. Un matin, au petit déjeuner, mon compagnon m'a demandé « C'est quoi la capitale du Bénin ?» Je ne savais pas répondre. Je ne savais même pas situer le Bénin, d'ailleurs. J'ai demandé à OK Google. Il m'a répondu « Porto Novo ». Jamais entendu parler de ça. J'ai regardé sur la carte, c'était donc là. Un pays complètement inconnu en Afrique. Voilà, c'est ça qu'il me fallait. Un billet d'avion pour Cotonou. Oui, c'est au Bénin, Cotonou. Un vaccin contre la fièvre jaune, un visa, un hôtel. Et me voici parti pour les 30 jours qui allaient, j'en étais persuadée, changer ma vie. J'avais les adresses des associations sur place. Médecins du Monde, Handicap International, NOS Bibliothèque pour le Bénin. J'allais me présenter, proposer mes services. « J'ai un master en communication, » disais-je. « Bien, 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 » me répondait-on partout en me regardant comme un extraterrestre tombé du ciel. « Je sais lire, écrire, compter, j'ai beaucoup d'énergie, je peux faire plein de choses, » poursuivais-je. On me tendait alors le prospectus de l'association avec l'adresse du siège en France en me disant qu'on avait besoin de monde, oui, là-bas. Pour régler les problèmes administratifs et pour trouver des financements, des mécènes. Après un mois, je reprenais l'avion pour Paris. Je n'avais pas trouvé ce que j'étais venu chercher. Mais bon, je connaissais mieux le Bénin.
Voilà, Jérémy Nyonlanfoune, cette européenne, évidemment, qui débarque comme ça, sans savoir même où est le Bénin, prend un avion, boum, elle arrive, elle s'imagine qu'elle va sauver l'Afrique. Il y en a beaucoup des comme ça ?
Il y en a partout, oui. Puis moi le premier, c'est ce que j'ai cru.
C'est vrai.
Mais je pense qu'on a tous eu un petit peu cet élan, je vais dire, de générosité un petit peu démesurée, de vouloir faire quelque chose de bon.
Oui.
Voilà, pour ses semblables. Donc, ça part d'un bon sentiment.
Voilà. Et donc, si j'ai bien compris, les explications de votre frère aîné, le sage Jean-Claude, c'est à partir d'une amitié avec Yves Creix que ça a démarré aussi.
Alors oui,
oui.
Yves, on s'est connu il y a maintenant 20 ans. On s'est connu d'une manière complètement...
anecdotique.
Anecdotique, complètement. Oui. Je travaillais dans le meuble à l'époque. Il est venu acheter un canapé avec son épouse, Claude. Et on s'est retrouvés un jour dans une soirée par l'intermédiaire d'un ami commun. Et de ce jour-là, on ne s'est jamais quitté.
Voilà. Et vous avez envoyé des bouquins en Afrique.
On ne s'est jamais quitté. On a commencé à apprendre à se connaître. Et Yves est une personne qui m'a initié, qui m'a amené petit à petit à l'Afrique. Oui, absolument. Ça a été un acteur important dans ma vie, dans ma réflexion sur l'Afrique et le continent africain.
Cette Afrique, disait votre frère aîné en commençant, est quelque part, il parlait de vous deux, une Afrique rêvée. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais complètement, complètement. Je suis, comme je vous l'ai dit précédemment, je suis né en Afrique, mais je n'y ai séjourné qu'un mois. Donc, vous êtes bien d'accord que si mon frère est né à l'âge de 5 ans, n'avait pas de souvenirs, moi, à l'âge d'un mois, à moins d'être un génie, je n'ai pas de souvenirs non plus. Donc, j'étais quelque part dans ma vie un déraciné, enraciné. Et j'avais besoin aussi d'un repère et puis de pouvoir conforter une certaine identité rêvée, voilà, et sceller cette identité. Et Yves a été un acteur prépondérant sur cette réflexion, voilà,
que j'avais. Alors, c'est vous, Yves Creix, fils d'administrateur des colonies, qui fait revenir à l'Afrique une espèce de blanc coloré en noir, parce qu'il vit en Europe depuis qu'il a un mois.
Ben peut-être, je ne sais pas, la Sylvie qui le dit. Hein. J'ai un petit peu de mal à me mettre à sa place.
Bien sûr.
Sur ce sujet-là.
Oui.
Mais effectivement, c'est un sujet dont on a parlé très souvent. Voilà, de cette Afrique. Alors, rêver, selon le terme de Jean-Claude, certainement, peut-être. Mais en tout cas, oui, effectivement, on s'est rapproché très fortement par ce biais-là.
Et alors vous, quand vous rêvez à l'Afrique, vous rêvez aux masques africains, entre autres, à ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appelait autrefois les arts tribaux, qu'on appelle aujourd'hui les arts premiers, dont la France s'enorgueillit à travers la fondation créée par Jacques Chirac d'avoir l'un des meilleurs musées au monde, le musée Branly. Vous, cette Afrique rêvée, vous la voyez à travers les masques dont Jean-Claude disait tout à l'heure que, quelque part, c'est un peu la bibliothèque traditionnelle de l'Afrique profonde. Parce que quand on ne sait pas écrire, comment est-ce qu'on transmet les éléments d'information relatifs au pouvoir, relatifs à la vie en société, relatifs au rapport avec l'au-delà, à travers des sculptures ?
Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, parce qu'effectivement, moi, je n'utiliserai pas le terme d'art premier. Cet art est premier dans le cœur de Jacques Chirac, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Je parle d'art tribal.
Oui.
Pourquoi ? Parce qu'on parle de famille, on parle de clan, on parle de village, on parle de tribus. Ce sont les sociétés primaires. Et ces sociétés, comme toute société, il fallait effectivement qu'elles vivent sur des fondements. Ces fondements sont au nombre de quatre. C'est l'histoire, c'est la culture, c'est la croyance et c'est la langue. Et c'est ce qui fait donc leur tradition. Cette tradition, c'est un héritage. C'est l'héritage des ancêtres. L'héritage, il est sacré, il est immuable. Et cet héritage, pour le faire connaître, eh bien, il faut arriver à rendre visible l'invisible. Et c'est le rôle de tous ces artefacts qui ne sont pas que des masques. Il y a des statues, il y a des amulettes, là, il y a une multitude d'objets qui ont pour fonction, et c'est la réalité de ces pièces qui ne sont pas qu'un art, ça c'est très occidental de le baptiser art, mais avant tout ce sont des outils. Ce sont des outils de communication pour enseigner, enseigner ce qui est, ce qui sont les codes de ces sociétés, d'où le titre de ce livre, Les maîtres des codes.
Alors qui sont les maîtres des codes?
Eh bien les maîtres des codes, ce sont toutes ces pièces, ce sont tous ces artefacts, ce sont ces masques, ce sont ces statuettes qui sont la représentation.
Ce sont eux les maîtres, ce ne sont pas des hommes qui sont les maîtres, ce sont les statues qui sont les maîtres.
Mais absolument. Ce sont les maîtres, le maître des codes, entendons-nous bien. C'est-à-dire qu'il leur appartient de faire passer, d'enseigner toute la codification de ces sociétés qui existent depuis la nuit des temps et qui sont la création des ancêtres. Voilà. Et c'est la raison de ce livre qui est de rappeler qu'avant d'être un art et avant de s'arrêter sur que le côté esthétique, c'est la réalité de ces sociétés dont il est question dans ce livre. Comment elles fonctionnent et pourquoi elles fonctionnent.
Voilà, et je dois dire que c'est un livre magnifique, fait de à la fois de textes, de superbes photographies de votre collection, de la collection Crex, que vous tenez en partie de votre père et que vous avez poursuivi. Alors vous dites, ça n'est pas de l'art, bon, je veux bien. En tous les cas, c'est extrêmement évocateur et quiconque est se met en face de ces statues, en face de ces amulettes, en face de ces sculptures, voilà, ne peut pas rester indifférent. On peut être choqué, bien sûr, parce que voilà, c'est assez violent, c'est assez cru, c'est assez direct, mais on ne peut pas être indifférent à ces expressions, voilà, de l'humanité. Donc c'est un livre absolument superbe, qui mêle à la fois ces sculptures et ces traditions africaines avec des photographies qui sont des photographies précisément de cette époque coloniale qui a fait, qu'on le veuille ou non, que ces pièces sont arrivées en Europe et sont arrivées sur le marché mondial.
Alors, pour être précis, la notion d'art, le concept même d'art est quelque chose d'occidental. C'est pas une notion qui existait tout du moins précisément en Afrique, hormis les Baoulés en Côte d'Ivoire qui, eux, avaient vraiment une aspiration vers le beau, vers l'artistique. Mais sinon, ce sont avant toute chose des objets fonctionnels, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il fallait s'asseoir sur la beauté de ces pièces. Mais il n'y avait pas à cette époque-là la notion d'art telle que nous la concevons, c'est-à-dire ce qui provoque une émotion. C'est tout à fait différent. C'est avant tout du fonctionnel.
Comment est-ce que vous faites le lien, les uns et les autres, entre ces productions traditionnelles, que j'appelle artistiques, qu'on peut appeler évidemment autrement, les bibliothèques et l'apprentissage du savoir? Je me tourne vers Jean-Claude.
L'objet, que ce soit le masque ou la sculpture, est, comme l'a dit Yves dans son livre, est un objet d'agrégation du savoir. Dans une communauté, et on prend tribal au sens au sens réel du terme, au sens étymologique et non pas au sens sociologique qui dénigre la forme de groupement humain qu'on appelle la tribu. L'objet est le rassemblement des éléments culturels de ce groupe humain à travers l'action de son sculpteur pour transmettre cette connaissance. Et le fait que Yves dise que l'objet est le maître de la codification, c'est à mon sens, c'est vrai et c'est intéressant. C'est que la maîtrise de quelque chose n'est plus l'apanage d'un individu, mais c'est l'apanage d'une chose qui, elle, est l'extension de l'individu et du groupe social. L'individu donne à cet objet une âme. Et cette âme en fait le maître de quelque chose. Ça, c'est un élément qu'il a compris de ce que certains Africains perçoivent de leur passé. Bon, ça, c'est un élément. Le rapport à la bibliothèque est que nous voulons prendre des livres fonctionnels, utilitaires, des livres objets de transmission du savoir, et non pas des livres, je dirais, distraction. Le masque, la sculpture, est un objet de transmission, uniquement un outil. Et nos livres sont des outils. Voilà, ça c'est le lien fort. Ce sont les livres qu'on utilise sont des outils au même titre que ces masques, parce que je reprends l'exemple de l'ouvrage mathématique. Une équation, lorsqu'on regarde une équation du second, du troisième degré, développée sur un tableau, en physique ou en chimie, pour celui qui aime la mathématique, peut être une œuvre d'art. Elle est belle, une équation. Il y a des symboles qu'on ne comprend pas, il y a des tas de signes sur un tableau, mais quand on le regarde avec, je vais dire, distance, il y a une beauté.
Il y a une calligraphie.
Oui, la même beauté que celle que vous décrivez dans ce que Yves appelle un outil et que vous appelez une œuvre artistique. Voyez. Donc il y a cette distanciation et ce rapprochement. Voilà. Hein.
Je comprends. Voilà, alors écoutez, on va se faire une petite pause musicale et cette fois-ci, on va donner la parole, si j'ose dire, en tous les cas, le chant à Jérémy Nyanlonfoun avec ce qui fait le sens de notre émission, un titre qui s'appelle « Un enfant ». Écoutez.
Un enfant, c'est du soleil dans ta maison. Un enfant, c'est un chant d'amour à l'unisson. C'est le bonheur qui revient à grands pas. C'est les jours de pluie que l'on ne sent pas. Un enfant, c'est donner un sens à ta vie. Un enfant, c'est le grand jour en pleine nuit. C'est les galères d'une autre vie qui n'ont plus grande importance aujourd'hui. Un enfant, c'est les angoisses et les ennuis. Un enfant, c'est partager les joies, les cris. C'est une force qui nous emplit, c'est tout affronter sans un souci. Un enfant, c'est quand tu rentres et qu'il te sourit. Un enfant, c'est sa façon de te dire oui. C'est avoir compris que tous les jours, la vie n'a pas d'importance sans amour. Un enfant, c'est du soleil dans ta maison. Un enfant, c'est un chant d'amour à l'unisson. C'est le bonheur qui revient à grands pas. C'est les jours de pluie que l'on ne sent pas.
J'aimerais pouvoir dire un jour, avec tant de force et avec tant d'amour, qu'un enfant c'est du soleil dans ma maison. Un enfant c'est un chant d'amour à l'unisson. C'est le bonheur qui revient à grands pas. C'est les jours de pluie que l'on ne sent pas. La la la. C'est un chant d'amour à l'unisson. C'est le bonheur qui revient à grands pas. C'est les jours de pluie que l'on ne sent pas.
Ben voilà, mais c'est superbe votre chanson, Jérémy. Et donc vous chantez depuis toujours. Vous êtes aussi un chanteur.
Si. On veut bien me qualifier ainsi, je veux bien, oui, mais oui, j'aime la chanson.
Donc, et vous êtes un auteur, puisque les paroles sont de vous aussi.
Oui, 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 oui. Alors, le 7 avril, pour corroborer tout ça, il y aura un concert de chansons françaises. Et c'est à partir de ce concert, et c'est sur ce concert que nous allons faire en sorte de récolter le maximum de fonds pour pouvoir faire démarrer les projets dont Jean-Claude vous a parlé. Donc c'est le 7 avril, à la salle Molière, le théâtre Molière, 18 quai de Bondy, et le récital démarre à 20h.
Voilà, et il se fera donc au profit
de l'association.
Alors quelles sont les actions actuelles? Pour terminer sur ce sujet, quelles sont les actions actuelles concrètes de l'association NOSE en direction du village Kodji? Je ne sais pas qui veut prendre la parole, peut-être Jean-Claude.
Alors, les actions actuellement sur au niveau du village sont de préparer l'installation des livres dans un local. Nous fournissons depuis 6 ans ou 7 ans un fonds de livres à l'école primaire de ce village, à 2 écoles primaires dans des villages à côté de Kodji. Nous fournissons un fonds d'ouvrages parascolaires à certaines familles de ce village. Et tout ça, nous voudrions commencer à partir de cette année à les rassembler dans un seul local pour lesquels nous allons mettre, avec l'argent qu'on espère récolter dans le concert, l'électricité. Voilà. Mais nous continuons ce que je disais tout à l'heure à propos du livre neuf, chaque année, à remplacer les ouvrages passés dans tous les lieux où on a fourni des livres par des ouvrages neufs, toujours actualiser ces ouvrages. C'est notre action constante. Voilà.
Voilà, bien écoutez, merci à vous trois d'avoir participé à cette émission générée par Yves Crex, qui est un peu celui qui a servi de go-between entre nous quatre. Merci de votre action pour ces enfants du Bénin. Voilà, nous, notre émission, elle consiste à donner la parole à de très grandes associations qui parfois ont des centaines et des milliers de collaborateurs, ou à de petites associations avec des gestes qui sont pas individuels parce que votre geste est collectif et qu'il est fondé sur l'amitié, mais il consiste à donner la parole à toutes sortes de structures, et Dieu sait si elles sont nombreuses dans ce monde. Voici, merci d'avoir été avec nous, et je dis à nos auditeurs, eh bien, à bientôt la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Human.
Salut. Merci, merci, et au revoir. Merci beaucoup.
Merci.
un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
Oh.